Depuis... Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition des Grands Entretiens. Depuis des décennies, les recherches sur la fameuse bataille d'Alésia en 52 avant Jésus-Christ se sont cantonnées à deux questions. La localisation du site, tout d'abord, qui fut au centre et qui est toujours au centre de bien des débats et querelles. Les recherches archéologiques ensuite, recherches relatives au siège, ce que l'on appelle techniquement la poliersétique. Tant et si bien qu'on en a oublié la question principale, la bataille elle-même, nous devrions même dire les batailles, car il y en eut quatre très exactement. Il est vrai que l'histoire bataille a longtemps, trop longtemps, été dénigrée par l'école marxiste. Aujourd'hui, tout cela semble bien loin et la recherche historique permet de renouveler, au sens propre, notre regard sur ce mythe national que fut la bataille d'Alésia. Yann Le Boeck, bonjour.
Bonjour à vous et aux auditeurs, bien entendu.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous présente, vous êtes un grand spécialiste d'histoire militaire de l'Empire romain, professeur émérite à la Sorbonne. Vous avez publié de nombreux ouvrages. Je citerai notamment votre César chef de guerre, qui a été réédité dans la collection Texto il y a 2 ans. Donc la collection de poche des éditions Talent. Et vous venez également de rééditer dans la même collection votre monographie donc consacrée à Alésia, intitulée sobrement Alésia 52 avant Jésus-Christ. Alors, Yann Le Boeck, la source principale que nous avons de cette bataille d'Alésia, c'est bien évidemment le Bellum Gallicum de César, le livre 7 qui lui est consacré. Or, il s'agit, une des toutes premières leçons que l'on apprend quand on est étudiant d'histoire dans l'interprétation des sources. C'est une source écrite par un vainqueur, c'est donc une source biaisée.
Bien entendu, mais l'historien a deux instruments pour essayer de rétablir au moins en partie la vérité. Le premier, c'est d'abord tout simplement la critique des textes. Dans César, tout n'est pas à jeter. Il faut savoir pourquoi il écrit ce traité. On saura comment le critiquer. Il l'écrit pour dire « je suis un grand général ». Autrement dit, il ne donne de manière très subtile, d'ailleurs très habile, que ce qui est à sa gloire. Donc, il y a cette critique des sources à faire, et puis il y a d'autres... Et donc, dans l'œuvre de César elle-même, nous trouvons des éléments qui sont tout à fait acceptables. Il dit qu'il a vaincu Vercingétorix, ce n'est pas contestable, personne ne peut dire le contraire. Puis il y a un deuxième type de source que nous devons utiliser et qui réservera peut-être encore quelques surprises dans l'avenir, mais qui jusqu'à présent était bien étudiée, c'est l'archéologie, qui nous a donné des résultats extrêmement importants. Il faut savoir que sur le site d'Alésia, je dirais tout de suite, nous y reviendrons éventuellement ultérieurement, le site d'Alésia se trouve en Côte d'Or, Alice Sainte-Reine. Donc sur ce site d'Alice Sainte-Reine, qui est un promontoire très élevé,
un plateau,
qui fait partie d'un plateau, d'un élément d'un plateau, qui est promontoire qui est lui-même encadré par deux vallées encaissées, deux vallées fluviales encaissées, de l'Auze et de l'Auzerin. On a trouvé, jusqu'au milieu du 19e siècle, beaucoup d'objets et de monnaies qui allaient chez les paysans en général, qui les conservaient, éventuellement les revendaient. Et puis, il y a eu les fouilles de l'époque de Napoléon III, qui ne sont pas les fouilles de Napoléon III, mais les fouilles faites par des archéologues qui ont été choisis pour leurs compétences et qui avaient choisi cet endroit parce que justement on avait trouvé des objets. Donc il y a malgré tout le résultat des fouilles de Napoléon III, de l'époque de Napoléon III. Puis entre l'époque de Napoléon III et la fin du XXe siècle, il y a eu d'autres trouvailles qui ont été faites au hasard des pluies, des tempêtes, des travaux des champs, etc., ou des travaux de voirie. Et il y a eu une deuxième grande époque pour l'archéologie qui correspond aux fouilles faites par Michel Redé et un Allemand qui s'appelle Sigmar von Schnurbein et leurs équipes, bien entendu, hein, ce ne sont pas eux qui maniaient la pelle et la pioche. Et puis depuis, pardon, nous avons encore trouvé quelques petits objets, ça et là.
Alors vous mettez précisément, nous y reviendrons, mais en regard de cartes, une carte qui au fond est le résultat des travaux, des recherches sous Napoléon III et une autre carte qui, elle, présente les recherches, les travaux, les résultats des travaux les plus récents. Je reviens à la guerre des Gaules et à ses origines, parce que on parle de domination politique. En quoi la guerre des Gaules est-elle si différente des autres guerres de l'Empire romain?
Elle est différente pour nous qui sommes français, parce que ça a eu des conséquences pour notre pays, hein, bien entendu. Elle a eu comme différence, on peut évidemment toujours en trouver. La différence peut-être essentielle, c'est que elle a été provoquée par César parce que il tenait absolument à avoir une grande victoire, de grands succès militaires qui lui permettraient de faire une carrière politique ultérieurement. Sinon, la guerre des Gaules a été menée par un excellent général. César était un génie, hein, qu'on peut ranger dans le même tiroir que Alexandre le Grand et Hannibal. Ce sont, je crois, les trois génies militaires de l'Antiquité. Mais à part cela, bon, ça n'a rien d'exceptionnel. Ce que César a fait à Alésia, vous le retrouvez un siècle plus tôt à Numance, en Espagne, où un autre grand général, Scipion le deuxième africain, a fait faire des travaux extrêmement importants et tout à fait analogues à ceux-ci, où vous les retrouvez en 73 après Jésus-Christ, en Judée, à Massada, où Flavius Silva et la 10e Légion Fretensis ont fait des travaux qui sont aussi assez analogues à ceux qu'on retrouve à Alésia.
Alors on fait la guerre pour le butin, pour la domination territoriale, pour le tribut aussi, parce qu'il peut y avoir un tribut. Mais là, le conflit, j'ai découvert en vous lisant qu'il s'agissait d'un conflit quasi héréditaire.
Héréditaire complètement, et en fait pas quasi, complètement héréditaire. Le Gaulois était pour le Romain l'ennemi héréditaire. Pourquoi? Parce que au IVe siècle, les Romains se contentaient d'embêter leurs voisins, de faire la guerre à leurs voisins, et puis un jour, ils ont appris l'existence, ils ont vu débarquer une horde de barbares, ce que nous appellerions des sauvages, mais qui s'appelaient des barbares à l'époque, qui ont assiégé Rome, pillé Rome, imposé un tribut à Rome avant de repartir, et les Gaulois, sont descendus plusieurs fois depuis la plaine du Pô pour assiéger Rome. Alors, il y a des débats pour savoir si c'est 3 ou 4 expéditions qu'il y a eu, plus ou moins réussies, mais enfin ça n'est pas très important pour nous. Donc il y a eu plusieurs expéditions des Gaulois, et donc à partir de ce moment-là, le Gaulois ayant été l'agresseur, l'assaillant, devenait l'ennemi héréditaire.
Est-ce qu'il y a une notion de guerre juste dans le droit romain, dans la perception romaine?
Oh oui, bien entendu. C'est ce qu'on appelle d'une expression latine le bellum iustum piumque. C'est une expression qui est généralement très mal traduite. On dit une guerre pieuse, juste et pieuse, ce qui n'a aucun sens. Une guerre pieuse, c'est une ânerie. C'est une guerre qui est en plus une guerre juste, ce n'est pas ce que nous entendons par là, une guerre moralement juste, c'est une guerre qui est justum, conforme au droit, et pium, conforme à la religion, c'est tout.
Alors,
ça n'empêche pas qu'il y ait une morale de la guerre chez les Romains, mais qui n'est pas incluse dans ce bellum justum piumque, qui est une notion à la fois juridique et religieuse.
C'est-à-dire que derrière, il y a la notion d'ordre, d'ordre ici-bas, c'est-à-dire qu'on doit lutter contre la barbarie.
Pas du tout. Les Romains, la conception de la guerre juste, chez les Romains, c'est une guerre purement défensive. Il y a un droit que Cicéron a explicité, qui est le droit des fessiaux. Les fessiaux, c'était des prêtres, et qui avaient élaboré un droit de la guerre. Et la première règle, la règle fondamentale dans ce droit des fessiaux, c'est on n'attaque pas un voisin ou un peuple étranger. En revanche, si on est attaqué, si nous Romains sommes attaqués, nous devons mettre en place toute une procédure pour éviter la guerre. Mmh. Et nous ne recourons à la guerre qu'en dernier recours. C'est-à-dire qu'on envoie une ambassade dire aux ennemis, mais vous nous avez causé du tort, vous avez fait commis tel ou tel crime à notre égard, il faut réparer. Alors il faut que l'ennemi refuse de réparer. Ensuite, on envoie une autre ambassade qui dit, si vous vraiment vous ne voulez pas réparer, nous vous déclarons la guerre. Mmh. Et c'est à ce moment-là seulement que la guerre est déclarée. Et il y a toute une série de rites, bon, on ne peut pas entrer dans le détail parce que ça nous éloigne d'Alésia, mais qui sont destinés à retarder l'entrée en guerre de façon à laisser à l'ennemi le temps de réfléchir, de se dire peut-être quand même qu'il vaudrait mieux réparer le tort que nous avons causé aux Romains.
Alors venons-en précisément à Alésia. On parle généralement de la date de 52 avant Jésus-Christ. Il y a une sorte de pré-Alésia, d'une période guerrière contre les Helvètes, contre les Suèves, qui mène César finalement à se diriger vers les Gaulois.
52, c'est quand même la 7e année de la guerre. Hein, il y a eu 6 années de guerre auparavant, et en fait c'est seulement la 2e et la 3e année qui ont été de vraies années de guerre. La première année de guerre avec la campagne contre les Helvètes et la campagne contre les Suèves est une année pendant laquelle César a cherché à provoquer les Gaulois, à les décider à entrer en guerre, parce que les Gaulois, eux, finalement, les Gaulois de Gaulle n'étaient pas très intéressés par une guerre contre les Romains. Et puis, finalement, ça n'a marché ni dans un cas ni dans l'autre. Les Helvètes ont été vaincus, ils sont rentrés dans leurs montagnes. Les Suèves ont été vaincus, ils sont retournés dans leur Germanie. Et puis, c'était terminé. Alors, c'est là où César, qui était un homme extrêmement intelligent, a eu une idée, qui était de placer des camps à la frontière du pays belge. Que les Belges, c'est le peuple le plus courageux. Les Belges sont les plus courageux de tous les Gaulois, hein, comme l'a dit César au début de son Bellum Gallicum. Donc c'était les plus dangereux, les plus menaçants, ceux qu'il fallait vaincre en priorité. Ça, c'est sa stratégie, d'attaquer l'ennemi principal. Et donc, la deuxième année, c'était guerre contre les Belges. Troisième année, guerre contre les ennemis les plus puissants après les Belges, c'est-à-dire les peuples de l'Atlantique. En particulier mes ancêtres du Morbihan, les Vénètes, qui l'a attaqué en personne, hein, lui-même. Il n'a pas confié ça à un de ses lieutenants, il est allé lui-même dans le Morbihan. Il fallait au moins ça. C'est ce que disait toujours mon père et mon grand-père. Il a vaincu tous ces peuples. Puis les années suivantes, 55, 54, 53, c'était des années relativement calmes. Il en a profité pour mener des raids en Bretagne, dans l'île de Bretagne, notre Grande-Bretagne, et en Germanie, au-delà du Rhin. Ce qui était intéressant pour lui, parce que ça montrait que s'il était capable de faire traverser la mer à une armée, ou de traverser le Rhin à une armée, il était protégé des dieux. Neptune ne lui voulait que du bien, donc il laissait ses bateaux passer. Et alors le Rhin, c'est un dieu. C'est ça qui est embêtant. Mettre un pont sur un dieu, c'est un joug. C'est l'image d'un joug, c'est très dangereux. Mais César a une protection qui est bien supérieure. Il descend de Vénus, et Vénus est plus puissante que le dieu Rhin. Donc il met son pont tout très tranquillement, et par ces quatre expéditions en Bretagne et en Germanie, il montre à tout le monde qu'il est protégé des dieux, à tous ses ennemis et ses amis. Je suis protégé des dieux, la déesse dont je descends, Vénus, me donne la victoire, je ne crains rien. Et puis, comme Alexandre le Grand, qui est un mythe très important dans l'Antiquité, en particulier chez les Romains cultivés, mais certainement un homme comme Hannibal imitait Alexandre le Grand, Scipion aussi, les deux Scipions, César aussi, il y a une volonté d'imiter Alexandre le Grand. Donc non seulement je fais des choses extraordinaires grâce au Dieu qui me protège, mais en plus je vais dans des territoires exotiques. Les Bretons sont des gens exotiques, les Germains sont des gens exotiques, j'ai remporté la victoire et je rentre très tranquillement après avoir vaincu ces barbares abominables.
Sauf donc qu'il y a ces Gaulois, ces armées gauloises. Alors tous les enfants de France avec Astérix savent que la première qualité ou le premier défaut de ces Gaulois, c'est de se diviser. César doit faire face à des hommes divisés, mais qui vont s'unir sous la coupe d'un chef, d'un jeune chef qui s'appelle
Donc, oui, qui s'appelle Vercingétorix, bien entendu. Non seulement ils sont divisés, les voisins se détestent cordialement, c'est normal. Les Éduins du Morvan et les Lingons du reste de la Bourgogne se détestent les uns les autres. Les Lingons de Langres détestent les gens du Jura, mais ils ne connaissent pas les autres. Si vous demandiez à un Lingon ce qu'est un Vénète, il vous regarderait avec de grands yeux en vous disant « qu'est-ce que c'est que cet animal ? J'ai jamais entendu parler de ça. » Ils ne se connaissent pas, et quand ils se connaissent, c'est pour se détester. Alors, évidemment, César a été très habile parce que il a attaqué les peuples gaulois les uns après les autres. Quelquefois, il a eu des coalitions de 2-3 peuples, les Nerviens, les Viromanduins, les Atrébates, dans le nord, effectivement, les peuples belges, mais le plus souvent, il les a attaqués les uns après les autres, détruits les uns après les autres. En plus, il a bénéficié de complicités, d'alliances. Je parlais des Lingons à l'instant, les Lingons de Langres ont discuté pendant quelques heures entre eux, et puis ils ont dit, nous entrons dans l'alliance romaine. Et ils y ont été fidèles jusqu'au bout. Les Rèmes de Reims ont été fidèles jusqu'au bout. Les habitants de Cologne ont été fidèles eux aussi. Les Éduins ont un petit peu hésité. Enfin, il y en a quand même quelques-uns qui sont passés du côté de Vercingétorix, qu'en disent leurs descendants. Ils ont trahi César, mais en gros, ils s'ignoraient, ils étaient indépendants. Et c'est le génie de Vercingétorix d'avoir dit à tous ces peuples, isolés, nous ne pourrons rien faire, unis, nous réussirons à repousser les Romains.
Il le fait au nom de quel principe ? Vous utilisez le terme de libertas qui, pour nous, signifie, il s'agit pas de faire d'anachronisme. La notion de liberté telle que nous la concevons aujourd'hui n'a rien à voir avec la notion de liberté à l'époque.
Mais la notion de liberté, beaucoup de gens la conçoivent de manière très différente de nos jours encore. La liberté dans un régime démocratique, comme semble l'être la France à l'heure actuelle, c'est la liberté des... Ça peut être la liberté de l'intellectuel, ça peut être la liberté de l'artiste, ça peut être la liberté du simple électeur, de celui qui se présente à une élection, etc. Bon, pour les Romains aussi, le mot libertas avait des sens très différents. En gros, la liberté à l'égard de Rome, pour un Gaulois, c'était ne pas payer le tribut et ne pas fournir de recrues. Plus, ne pas voir de légionnaires se promener chez moi, parce que je n'aime pas voir leur tête. Si les légionnaires veulent se promener, qu'ils aillent en Italie, ils sont beaucoup plus jolis dans le paysage. Voilà, ce sont ces trois éléments. Pas de légionnaires qui passent chez nous, pas de tribut et pas de recrutement.
Alors il y a un processus de révolte, vous présentez la fameuse réunion des Carnutes, que tout le monde là aussi connaît par la bande dessinée Astérix, la révolte des Carnutes, puis après la révolte des Arvernes. Que représente, est-ce que le Vercingétorix arrive à rassembler tous les peuples ou simplement une partie de ces peuples?
Cette révolte effectivement éclate chez les Arvernes contre les Romains, ou chez les Carnutes pardon, qui massacrent des Romains, mais il faut savoir qu'il y a en même temps une crise politique, une guerre politique en quelque sorte à l'intérieur de la Gaule, où il y a des partisans de la monarchie qui s'oppose à des partisans d'un régime aristocratique. Mais les Gaulois, comme les Romains, n'ont jamais été tentés par la démocratie. Ils n'y ont même jamais songé. Je ne connais pas un seul auteur latin qui ait dit « la démocratie, c'est un bien ». Non seulement, il n'en parlait même pas, il ne la critiquait pas. Donc il y avait ce double conflit en même temps, conflit extérieur contre les Romains et conflit intérieur entre les partisans de l'aristocratie et les partisans de la monarchie. Alors Vercingétorix était partisan de la monarchie, et en revanche son oncle Gobanitio était un partisan du régime aristocratique, et Gobanitio en un premier temps a obtenu que Vercingétorix soit banni de la capitale de Gergovie, de la capitale des Arvernes, et après avoir obtenu ce départ, il a maintenu le régime aristocratique qui gouvernait la cité des Arvernes. Vercingétorix, lui, est allé rameuter tous les peuples qu'il a pu, tous, Non. D'abord, il y en a qui étaient incapables de faire quoi que ce soit parce que ils avaient subi des pertes énormes. Les Nerviens, après la grande bataille qu'ils ont menée contre les Romains, la bataille dite du Sabis, il ne leur restait que quelques centaines de soldats. Et les Vénètes avaient été, l'armée Vénète avait été anéantie, donc vous ne trouvez pas de Vénètes dans la révolte de 52. Il y a quelques peuples de Gaule qui sont restés fidèles à César, donc je les ai énumérés tout à l'heure, les Rèmes, les Lingons et les habitants de Cologne. Et puis il y a tous les peuples de la Gaule méridionale, ce qu'on appelait la province romaine ou la transalpine, province a donné notre mot français Provence, les peuples de transalpine, ils ont regardé ça avec un intérêt non déguisé. Beaucoup de gens dans la province auraient bien aimé que Vercingétorix se gagne, mais ils n'ont pas eu le courage de le soutenir. Et il y a même eu les Helviens du Vivarais, qui ont non seulement soutenu César, mais ont attaqué leurs ennemis, enfin les ennemis de César, qui étaient les Arvernes, et ils ont pris subi une défaite qui était tout à fait remarquable.
Alors, est-ce qu'on a une idée des effectifs que représentent ces armées, l'armée gauloise?
Alors c'est là où justement l'historien doit faire un très gros effort de critique. Parce que César ne dit jamais la vérité vraie, si vous me permettez ce pléonasme, il ne dit jamais la vérité vraie sur les effectifs dont il dispose. Et au contraire, il s'arrange pour gonfler les effectifs des Gaulois. C'est, si j'ose ainsi m'exprimer, de bonne guerre. Mais avec un peu d'esprit critique, on arrive à voir à peu près ce qu'il en était. César a eu très probablement à sa disposition environ 10 légions, c'est-à-dire 50 000 légionnaires, à peu près. Les chiffres sont très approximatifs. Alors tel autre vous dira, mais non, il en avait 12 légions. L'autre dira, mais non, il n'en avait que 9. Bon, 10 légions, 50 000 hommes. Plus des auxiliaires, on ne sait pas du tout combien il y en avait, des alliés, des Gaulois notamment. La Gaule a été conquise par des Gaulois en grande partie, d'autant que les légionnaires venaient de la Gaule cisalpine de l'Italie du Nord. Et donc en gros, on peut lui prêter une armée d'environ 100 000 hommes, dont seulement 50 000 étaient des combattants de première ligne, c'était des légionnaires. Quant aux Gaulois, les effectifs sont incalculables. Ils étaient certainement très supérieurs. Vercingétorix avait avec lui au moins 50 000 hommes, 80 000 dit César, mais une fois qu'il s'est installé dans Alésia, il a renvoyé toute sa cavalerie, qui représentait un effectif certainement très important, mais que nous ne connaissons pas. Et il a fait venir de l'extérieur des renforts, ce qu'on appelait d'une expression curieuse, l'armée de secours, qui, d'après César, comptait plus de 200 000 hommes. Alors, probablement plus de 100 000, certainement plus de 100 000, mais voilà, c'est l'ordre d'idée. Cela dit, pour qu'il y ait une bataille, il ne fallait pas qu'il y ait beaucoup plus de 50 000 hommes de chaque côté. Il fallait d'abord trouver un terrain plat extrêmement étendu, et 50 000 hommes de chaque côté. Parce que, étant donné les moyens de communication de l'époque, où il n'y avait pas de radio, les ordres étaient transmis soit par le mouvement des étendards, soit par la musique militaire. Au-delà de 50 000 hommes, le général ne pouvait plus commander les troupes qu'il avait sous ses ordres.
Alors justement, deux hommes, l'un en face de l'autre, César d'une part, Vercingétorix d'autre part. Est-ce qu'on a une idée, vous avez largement présenté le génie militaire de César, qui avait à peine 50 ans.
Il avait une cinquantaine d'années. Il était né en 100.
Est-ce que Vercingétorix faisait le poids face à ce génie militaire?
Eh bien, Vercingétorix était, à mon avis, vous savez, sur César, on a évidemment une littérature relativement abondante, mais enfin, ça n'est quand même pas un roman russe, c'est pas 2000 pages. Sur Vercingétorix, j'ai fait le compte, on a 20 lignes, plus quelques monnaies. Ça ne fait pas beaucoup. Et donc les 20 lignes, quand il y a des gens qui écrivent 600 pages une biographie de Vercingétorix, je suis plein d'admiration. Mais enfin, c'est un peu comme la recette
de... On en sait plus sur Saint-Pierre que sur Vercingétorix.
Complètement, bien sûr. C'est la recette du pâté de cheval et d'alouette. Vous mettez un cheval et une alouette, vous avez un pâté.
Mais on a une différence de perception, parce qu'entre temps, le 19e et son romantisme est passé par là et a présenté un personnage.
Et donc il faut savoir faire une critique à travers les textes qui nous le présentent et surtout voir ce qu'il a fait. Or, très clairement, Vercingétorix a été un génie politique et un génie stratégique. Il a d'abord réussi à imposer son pouvoir, qui est un pouvoir quasi monarchique, mais qui ne se déclarait pas comme tel. Et il a réussi à unifier à peu près tous les peuples gaulois qui étaient disponibles, qui avaient envie de chasser les Romains. En un premier temps, il a appliqué ce qu'on appelle la tactique de la terre brûlée, c'est-à-dire qu'il a fait détruire toutes les réserves de blé, attaquer les convois de ravitaillement des Romains, et à un moment donné, les Romains n'ont plus de quoi manger, ils sont repartis, César était en pleine retraite. Évidemment, il ne le dit pas, il dit « je faisais un mouvement tournant sur des positions sans doute préparées d'avance, comme on disait en 14-18, et il fallait protéger la province en priorité ». Donc il était en pleine retraite quand Vercingétorix a commis la seule faute qu'il ait commise, qui était de s'enfermer dans Alésia pour essayer de détruire l'armée romaine, alors que il avait obtenu le départ de l'armée romaine.
Et alors Alésia et cette fortification, c'est une technique de guerre,
c'est une conception stratégique de Vercingétorix que l'on connaît, qu'on appelle la stratégie du marteau et de l'enclume, que les Français ont voulu appliquer 20 siècles plus tard à Dien Bien Phu avec le même succès, c'est-à-dire qu'on fixe une armée sur un point bien précis. Alésia, c'était sur une hauteur, Dien Bien Phu dans une plaine. On la fait entourer, on attire par là toute l'armée ennemie, et puis on détruit l'armée ennemie en la prenant en tenaille entre ce point fixe qui est l'enclume et une armée qui arrive de l'extérieur et qui est le marteau. À Dien Bien Phu, le marteau n'est jamais arrivé, donc il n'y a eu que l'enclume, et au bout d'un certain temps, elle a été endommagée. Je prends ce parallèle parce que quand j'étais à Lyon, il y a un certain nombre d'années, j'avais fait une conférence avec un général sur justement ce parallèle entre Alésia, Dien Bien Phu, et l'explication de cette tactique du marteau et de l'enclume.
Il y a des permanences dans l'histoire. Alors, donc Vercingétorix peut compter à la fois sur sa force, sur le fort en lui-même, qu'il fait construire.
Qui est déjà construit. Alésia, c'est une ville fortifiée. Il y a un Murus Gallicus qui a été retrouvé en partie, enfin dont on a retrouvé les fondements, parce qu'évidemment César n'a pas permis que ça reste.
Oui. Et donc, il compte aussi sur une force externe.
Voilà.
Qui, elle, doit... d'où, en fait, ces quatre batailles distinctes à Alésia.
Voilà. Alors, les deux premières sont des batailles de cavalerie, qui ont mis en jeu les cavaliers, notamment germains et gaulois, que César avait à sa disposition. Et les germains étaient terribles pour ça. C'était en fait des peuples essentiellement de fantassins, les germains. Et ils n'avaient que quelques cavaliers, mais alors leurs cavaliers étaient terribles, terriblement efficaces. Ils allaient au combat à deux. Un cavalier et un fantassin, donc il y avait un homme qui était monté sur le cheval, le fantassin l'accompagnait en s'accrochant à la crinière, et arrivé sur le champ de bataille, ils se séparaient, ils faisaient des dégâts terribles. Et les Gaulois, eux, avaient leur propre cavalerie, qui était bien montée, bien équipée, ancienne, mais bon, qui ne tenait pas, n'a pas tenu devant les Germains.
Il y avait véritablement une infériorité militaire de la part, enfin, des Gaulois face aux Romains.
Face aux Romains, oui, incontestablement.
Et pourtant, les effectifs semblaient plus importants, mais bon, le peuple gaulois, on le voit pas vraiment comme un peuple de cavaliers, on le voit d'abord comme un peuple de fantassins.
C'est un peuple en partie de fantassins, mais les Gaulois avaient beaucoup de cavaliers, en particulier les Éduens. Ils avaient une cavalerie éduenne qui était célèbre, qui était renommée. Ils avaient beaucoup de cavaliers. Tous les nobles montaient à cheval, hein, étaient à cheval, et ils n'allaient pas à pied. Et ils avaient aussi des clients de cette noblesse qui étaient pourvus de chevaux et qui intervenaient ainsi dans les batailles.
Alors pour se représenter un peu la scène, vous avez, je le répète, une carte et vous avez ce plateau d'Alésia. À l'ouest, vous avez la plaine des Laumes. Oui. Et c'est sur cette plaine qu'ont eu lieu ces deux batailles.
Ces deux batailles dans la plaine, probablement, très probablement dans la plaine des Laumes.
Donc Vercingétorix comptait sur cette attaque à l'ouest pour anéantir une armée finalement qui l'entourait de tous les côtés. Puisque, si mes souvenirs sont bons, il y a avait 23 petits camps mineurs ou 23 postes mineurs de l'armée romaine et des camps principaux.
Les 23 postes avaient été trouvés par à l'époque de Napoléon III, par Stoffel surtout. Les fouilles récentes qui ont été menées par Michel Redet et Sigmar von Storbein ont montré que certains de ces camps n'ont pas existé, ou que c'était des fermes, une ferme ultérieure qui était prise pour un camp, etc. Et ont dégagé un nouveau camp qui n'avait pas été repéré jusqu'à présent.
Donc, en fait, le site d'Alésiane n'était pas, j'allais dire, encerclé comme
si.
On peut.
Ah si, parce que donc quand Vercingétorix est entré dans Alésia, oui. Il a trouvé une ville qui déjà naturellement était imprenable. Quand, si vous allez voir le site, vous imaginez des fantassins grimper là-haut, les ennemis les bombarder avec des flèches, des pierres, n'importe quoi, c'était impossible à prendre. En plus, les Gaulois d'Alésia Sainte-Reine avaient conçu un mur que César appelle le Murus Gallicus, qu'il décrit avec beaucoup d'admiration, qui était extrêmement efficace. C'était un site qui était pratiquement imprenable pour peu qu'il y ait de la nourriture et des vivres. Or, il n'y avait pas beaucoup de nourriture, il n'y en avait que pour un mois. Alors, pardon, pour répondre à votre question, qui était celle sur les Romains, donc les Romains avaient déjà cette première difficulté, donc le problème pour eux a été d'encercler Alésia. Ils ont construit un certain nombre de camps, entre 8 et 20 probablement, on ne sait pas exactement, ils ont construit un certain nombre de camps, et tout autour, ils ont construit une défense linéaire, un rempart continu de 15 kilomètres, avec un fossé, la terre était ramenée en arrière, et sur cette terre, on construisait une palissade. C'était destiné à empêcher les assiégés de sortir s'il voulait sortir. 15 kilomètres. Cette première défense linéaire a été entourée par une deuxième défense linéaire qui faisait plus de 20 kilomètres et qui était tournée cette fois-ci vers l'extérieur avec fossé vers l'extérieur, terre rejetée vers l'intérieur, palissade, etc. pour empêcher les ennemis d'autres ennemis de venir, d'en rentrer, d'apporter des nouvelles. Il fallait que les Gaulois assiégés soient sans nouvelles, ce qui psychologiquement est très important dans un siège, ne reçoivent pas de renforts, pas de vivres, rien de l'extérieur.
On a une vision très organisée des camps romains, très linéaire justement au sens propre, un alignement des tentes, etc., etc. La réalité est plus complexe.
La réalité est plus complexe. Vous avez raison. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer que les camps de campagne, les camps de bataille qui ont été construits par César à cette occasion, ressemblaient aux forteresses du deuxième siècle après Jésus-Christ. Il fallait tenir compte surtout de la topographie et du nombre de bons hommes qu'on voulait mettre là-dedans, parce que César a très astucieusement bien réparti ses effectifs tout autour.
Et pourtant, le génie, hein, vous l'avez montré à travers ces fortifications qui entouraient Alésia, a une place absolument majeure dans à la fois la guerre psychologique, mais aussi l'affrontement tout court.
Alors dans l'affrontement tout court, bien sûr, parce qu'en plus, non seulement il y a ces éléments que je vous ai décrits à l'instant, mais il y a toute une série de pièges qui ont été installés en avant, notamment des baïonnettes, je crois que ça devait être peut-être le plus important, des petites baïonnettes qui étaient dressées vers le haut, plantées en terre, la pointe dressée vers le haut, tout cheval ou tout bonhomme qui mettait le pied dessus était hors de combat, des pieux effilés enfoncés dans des cônes, tout cela recouvert évidemment par de l'herbe, de façon à ce que ça ne se voit pas, et là encore, quand un bonhomme tombait là-dedans, ou un cheval tombait là-dedans, il était fichu, il était hors de combat. Alors, donc tout ça était très important. Maintenant, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, cette polyorcétique a rempli d'admiration des générations d'historiens, mais ce n'est pas elle qui a permis de remporter la victoire. La victoire a été remportée par des batailles.
Alors justement, nous avons déjà évoqué les deux premières batailles qui furent des batailles de cavalerie. Il y a une troisième bataille qui a été une bataille de nuit, ce qui peut paraître étonnant à l'époque.
Ce qui était rare. À un moment donné, les historiens disaient que les batailles de nuit dans l'Antiquité étaient impossibles. En réalité, je suis en train de terminer de relire les épreuves d'un livre sur les batailles de Rome, l'histoire totale. J'en ai trouvé quand même un certain nombre. Il y en a pas mal. Il y avait qu'une seule exigence, c'est que le ciel soit dégagé et que la lune brille.
Que la lune brille. Ouais.
Donc c'était effectivement une bataille de nuit.
Alors on a parlé du facteur psychologique et vous parlez d'un historien que j'ai cité dans une autre émission de Storia Voce, c'est John Keegan. John Keegan est un personnage qui a réhabilité l'histoire militaire en s'inspirant notamment, vous le dites très bien dans votre ouvrage, d'un Français dont
Charles Ardan du Pic.
Voilà.
Et dont il y a une très bonne édition faite par mon collègue Jacques Frémaux.
Voilà. Donc John Keegan présente bien l'image d'un soldat qui a peur, qui peut avoir peur et
qui a normalement peur.
Qui a voilà,
normalement
peur. Et donc vous présentez tous les différents facteurs qui au contraire montrent ce qui a permis à ces soldats de braver leur peur.
Oui. En fait c'est de tous les temps. Quand un soldat va au combat, il sait qu'il y a des gens qui l'attendent et qui veulent le tuer. Réfléchissez, mettez-vous à sa place, ça n'est pas sympathique du tout. Le type qui veut vous tuer n'est quand même pas quelqu'un que vous pouvez aimer beaucoup. Donc, on le déteste et en même temps, on le craint parce qu'il veut vous tuer. Et donc, le sentiment premier du soldat est de reculer, d'aller vers l'arrière. Mais dans toutes les armées bien constituées, bien organisées, et de ce point de vue-là, l'armée romaine était merveilleusement bien organisée, il y a tout un ensemble de facteurs qui font que même si le soldat, d'un côté, a envie de partir vers l'arrière, finalement, il va vers l'avant, il va vers l'ennemi.
Alors donc, nous arrivons à l'acmé de la bataille d'Alésia, c'est la quatrième bataille qui, elle, sera décisive et qui amènera la défaite et ce Vercingétorix finalement qui se rend face à César.
Alors un mot quand même sur la troisième bataille, ouais, qui est une bataille de nuit comme vous l'aviez dit. Ce sont les Gaulois de l'armée de secours qui sont arrivés tardivement et qui se sont jetés sur le rempart romain. Ils ont essayé de le prendre d'assaut et ils ont échoué de nuit à le prendre d'assaut. Et finalement, les commandants gaulois sont dit attention, si nous renouvelons cette attaque, les Romains vont nous prendre par le côté droit. Ils vont faire une sortie et là, ce sera un désastre. Il faut trouver autre chose. Et ils ont trouvé autre chose, c'est ce qui s'est déroulé au moment de la quatrième bataille, donc que vous évoquez, et qui pour moi est la bataille la plus importante et la vraie cause de la défaite de Vercingétorix. Parce que pendant que cette quatrième bataille se déroulait, alors, disons rapidement comment, les Gaulois ont repéré un camp romain qui est isolé sur le mont Réa, un peu plus isolé que les autres, et ils se sont dit, si on réussit à prendre ce camp, moins bien gardé aussi sans doute, si nous réussissons à prendre ce camp, ça va créer un trou dans le dispositif militaire des Romains, et nous pourrons nous engouffrer par là et apporter la victoire par ce biais. Donc, ils ont caché des soldats, les ont laissés se reposer juste avant de leur ordonner de partir à l'assaut, et ces soldats sont partis à l'assaut. Mais les Romains qui étaient, donc c'est sur le mont Réa, très probablement, à mon avis, au nord-ouest d'Alésia, au nord de la plaine des Laumes, donc les Romains sont sortis, ont fait une sortie, ils ont pu se ranger devant leur camp et ils ont repoussé contenu les Gaulois. Et César, qui se trouvait assez loin de là, a tout de même bien vu la situation parce qu'il était sur une hauteur et il envoyait sans arrêt des renforts. Ce qui fait qu'à un moment donné, pratiquement toute l'armée romaine était à cet endroit. Et très probablement, toute l'armée gauloise devait y être venue elle aussi à ce moment-là. Donc ils se sont affrontés au nord de ce fortin. il y a eu une grande bataille. Et alors, ce qui montre que malgré toutes les limites de la polyorcétique de César, c'est que Vercingétorix, ne l'oublions pas, a réussi à percer les défenses de César. Il les a percées. Mais une fois qu'il les a percées, ça a été très dur parce que les défenses étaient difficiles à percer. Les Romains n'étaient quand même pas des gens incompétents, c'était de très bons soldats, ils se sont très bien battus. Il a réussi à les percer. À ce moment-là, il s'est retourné et il a vu justement au loin, dans la plaine, une immense couverture de boucliers gaulois. Ce qui voulait dire que tous les Gaulois, la plupart des Gaulois avaient été tués, que les autres s'étaient enfuis. On ne voyait même plus les Romains parce que les Romains étaient partis à leur poursuite. Alors César les a fait arrêter. Parce que la nuit arrivait et que se battre de nuit contre des fuyards dans une forêt, ça peut être très dangereux. Donc il a laissé partir les Gaulois qui avaient été complètement vaincus.
Donc c'est la retraite pour Vercingétorix. Vercingétorix, c'est un moment où vous présentez très bien. Normalement, la loi ou les coutumes font que il est prêt à donner sa vie parce qu'il a échoué.
Ah ben il n'est pas prêt, il la donne, oui.
Il la donne, oui. Et il se rend finalement à César.
Il se rend finalement à César. Enfin, il y a un conseil de guerre des chefs gaulois. Donc, quand
il y a beaucoup de conseils de guerre des Gaulois. Ah, ils discutent beaucoup.
Romains aussi. Romains aussi. Hein, ça, c'était dans l'Antiquité. C'était très fréquent. C'était une civilisation du verbe. Et pour les Romains, il était un magistrat, quel qu'il soit, général, commandant, etc., avait un conseil et il devait toujours écouter son conseil avant de prendre une décision. Quitte à être tout seul contre l'avis du conseil, hein, et à prendre sa décision telle qu'il l'a souhaité, telle qu'il le souhaitait, mais il fallait qu'il écoute son conseil. Et les Gaulois aussi faisaient de même. Alors donc, Vercingétorix se présente devant le conseil des chefs gaulois qui étaient restés dans la citadelle d'Alésia, et il leur dit, vous avez le choix, ou vous me livrez, ou vous me laissez me livrer moi-même. Et donc les Gaulois lui laissent le soin de se rendre à César, ce qu'il fait.
Alors il y avait une thèse farfelue, parce que je me souviens très bien, il y a bien une vingtaine d'années, avoir fait un exposé sur Vercingétorix et avoir lu le livre de Jacques Armand, qui émettait l'hypothèse d'un Vercingétorix qui a été un traître en ayant simplement rassemblé les Gaulois pour faciliter la tâche de César.
J'aimais beaucoup Jacques Armand, je l'ai connu, j'avais de l'estime pour lui, mais je dois dire effectivement que ce livre a une fin qui est plus proche du roman que de l'histoire, hein, ça c'est sûr. Vercingétorix s'est rendu à César, qu'il a fait couvrir de chaînes, ce qui était conforme au droit romain, parce que Vercingétorix, plus jeune, avait été dans l'entourage de César. Donc il était considéré comme un ami de César. Je n'entrerai pas dans les distinctions juridiques, ça nous entraînerait un petit peu loin, mais enfin, il était un ami de César et il était un traître, puisqu'il avait combattu César. Et donc là, il ne méritait pas la pitié de César.
Donc sa traîtrise le condamne à la fois à la geôle et finalement à la mort, puisque plusieurs années plus tard, il sera,
absolument.
Il sera étranglé.
Il a été étranglé, effectivement.
Alésia, c'est une bataille décisive dans l'histoire. Il y a un après et un avant.
À mon avis, j'ai de très bons amis, notamment Michel Redet, qui pense que ce n'est pas une bataille décisive, mais je ne lui en veux pas du tout. Je pense que c'est une bataille décisive, que la guerre des Gaules a été terminée à ce moment-là.
Alors, nous arrivons, Yann Le Boëc, peu à peu au terme de cette émission. Vous revenez à la fin de votre ouvrage sur une idée importante, qui est celle de la romanisation. Comment interpréter cette notion de romanité ? Est-ce que l'identité gauloise, finalement, avec le temps, s'est peu à peu estompée, a disparu pour laisser la place à cette romanité, ou les choses sont-elles un peu plus complexes ?
Je préfère romanité à romanisation, qui est un terme maladroit, qui n'est pas assez précis et qui a été utilisé dans un contexte idéologique qui n'est pas de mise pour le travail de l'historien. Alors, la politique de Rome, en fait, était une politique qui est extrêmement habile, peut-être, en tout cas, qui est assez différente de celle que nous connaissons de nos jours. C'est-à-dire que c'est un État dans lequel l'État romain reconnaissait la liberté à chacun de vivre comme il le souhaitait. C'est-à-dire que si un Gaulois voulait porter des pantalons, l'État romain ne lui disait rien du tout. S'il voulait parler le Gaulois, il pouvait parler Gaulois. S'il voulait s'administrer avec ses propres institutions, c'est-à-dire des vergobrés, il le pouvait. Il y avait une liberté totale. Mais l'État romain considérait évidemment que le citoyen romain avait des priorités, des avantages, le droit romain, la langue latine, civilisation des loisirs, une civilisation du travail aussi, en même temps d'ailleurs, parce qu'il ne faisait pas que se reposer. Et il suffisait de montrer aux Gaulois ce qu'était la romanité, et les Gaulois petit à petit se sont rangés aux côtés de la romanité.
Donc il y a une progressivité en quelque sorte.
Ça a été très progressif.
Donc sur plusieurs siècles ou...
Sur plusieurs siècles, siècles bien sûr. Le latin est devenu la langue finalement que tout le monde pratiquait en Gaule à un certain moment. Et il y a des barbares germains qui ont demandé à entrer dans l'armée romaine parce que ils étaient payés. Bien payés, puis en plus on leur donnait des terres en Gaule, dans le nord de Paris, dans le nord de la France actuelle, en Belgique, c'était les Francs, et c'est pourquoi les Francs ont donné naissance au français, ont donné naissance à une langue qui est le français, alors que leur voisin allemand, qui vivait au-delà du Rhin, au nord, le long du cours supérieur du Rhin, sont restés de tradition germanique.
Vous dites par ici parce que, pour nos auditeurs, nous enregistrerons cette émission depuis la région boulonnaise, les Boulonnais, dont César disait qu'ils étaient les hommes du bout du monde. Merci beaucoup, Yann Le Boeck.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, Alésia, 52 avant Jésus-Christ, dans la collection de poche des éditions Talendier, la collection Texto, une collection dans laquelle vous pouvez également trouver César, chef de guerre, et chez votre éditeur de manière générale, hein, vous avez la guerre romaine et Spartacus, chef de guerre. Cette émission n'aurait pas été rendue possible sans le travail d'Isabelle, que je remercie, de Vianney et de Georges, donc notre monteur et technicien. Merci beaucoup, chers auditeurs, restez-nous fidèles et à très bientôt pour un nouveau numéro des Grands Entretiens.